Maurice Schumann, avec un H, qui a réalisé une thèse donc, sur la conception de l'individualisme chez le Marquis de Sade, chez Stirner et Nietzsche.
Je vais passer aussi.
Voilà, qui est édité, comme on fait souvent, en Allemagne, qui est allemand aussi, fondateur et président de la Max Stirner Gesellschaft.
Merci beaucoup, bonsoir. Je voudrais remercier les organisateurs de cette série d'interventions pour la possibilité de parler aujourd'hui sur les penseurs individualistes. Je vais parler sur deux penseurs allemands. C'est clair, je suis allemand, et ce sont deux penseurs qui sont très importants pour le mouvement individualiste, deux penseurs qui sont très importants pour comprendre aussi le mouvement anarchiste. Ce sont aussi des représentants d'un individualisme radical. Un individualisme qui est fondé sur l'individu concret, qui est très radical, plus radical comme plus des autres auteurs anarchistes. Ils sont à leur place aussi dans le programme comme un contrepoint présumé à la pensée socialiste. Stirner a critiqué les socialistes avant Karl Marx comme Fourier, comme Proudhon, Wilhelm Weitling. Je ne sais pas si Weitling est connu ici. Wilhelm Weitling a été un socialiste avant Marx, il était dans la même association, le Bund der Gerechten, qui a été après le Bund der Kommunisten. Pour cette association, Marx a écrit son manifeste. Et il a été un penseur communiste chrétien qui a été très important pour les Allemands, pour le socialisme allemand. C'était un socialisme des artisans. Et Stirner a critiqué lui aussi. Cependant, Nietzsche a caricaturé le socialisme dans son œuvre principale, Zarathustra, avec l'image du chien d'enfer qui s'est révélé en bichon. Je vais me concentrer sur la critique de la société et de l'idée de la société future. C'est un peu paradoxal de faire comme cela, parce que, par exemple, Stirner a écrit très clairement concernant la société.
Dans le monde et dans la société, il nous est tout au plus permis de satisfaire les exigences de l'homme. Celles de l'égoïste doivent toujours être sacrifiées. Aussi, l'État et moi sommes-nous ennemis. Le bien de cette société humaine ne me tient pas au cœur, à moi l'égoïste. Je ne me dévoue pas pour elle, je ne fais que l'employer. Mais afin de pouvoir pleinement en user, je la convertis en ma propriété. J'en fais ma créature, c'est-à-dire que je l'anéantis et j'édifie à sa place l'association des égoïstes.
Je n'ai pas le temps pour expliquer toute la philosophie des deux penseurs. Je vais me concentrer sur la discussion des idées concernant la société, c'est-à-dire comment vivre en société sans perdre son individualité. La base de mon intervention est ma thèse de doctorat, Radikale Individualität. J'ai discuté dans cette thèse les conceptions de l'individualité par le Marquis de Sade, Max Stirner et Friedrich Nietzsche au vu des discussions contemporaines dans les sciences sociales. Je vais esquisser leur philosophie de l'individu avec des références à l'œuvre principale de Stirner, l'unique et sa propriété, et sa réponse aux premières critiques, l'anticritique, et des œuvres nietzschéennes qui ont été publiées par lui-même entre 1872 et 1889, c'est-à-dire entre la naissance de la tragédie et l'Etchomo. Je ne sais pas si vous connaissez bien Nietzsche ou non, parce qu'il y a la différence entre la réception française de Nietzsche et la réception allemande de Nietzsche. En Allemagne, nous n'acceptons pas l'œuvre de Nietzsche « Der Wille zur Macht »,« Volonté de puissance ». En France, c'est l'œuvre qui est très connue, qui a été utilisée par Foucault et autres penseurs sociaux. Pour les Allemands, ce n'est pas une œuvre de Nietzsche, pour cette raison. Je dis ça avant. Je travaille seulement avec des livres de Nietzsche qui sont publiés par lui-même, c'est-à-dire qui sont publiés pendant une période dans laquelle il a été santé. Je ne vais parler de la biographie de Stirner et Nietzsche, parce que vous connaissez bien sûr un peu leur biographie, j'espère, la biographie de Nietzsche, la biographie de Stirner. Sinon, ce n'est pas grave. Nietzsche dit, je vais citer librement, « Quand le livre parle, l'auteur doit garder la silence. » Pour cette raison, je vais me concentrer à l'œuvre. La préface du livre ludique et sa propriété de Stirner finit avec une référence au poème « Vanitas, Vanitato, Vanitas » de Johann Wolfgang von Goethe. « Je ne base ma cause sur rien. » La phrase exprimée tout sa pensée. La quintessence de son livre est l'authenticité, qui se base au rien, c'est-à-dire rien que l'être soi-même. L'idée centrale dans l'œuvre principale de Stirner est la libération de l'individu concret. De l'ich, moi ou je, nous avons le problème pour traduire Stirner en français. Ich, c'est le je et le moi. Pour traduire ça en français, ce n'est pas possible pour connaître dans quel sens il a utilisé le mot. Nous avons quelques mots qui sont comme ça. Pour cette raison, si vous voulez lire Stirner, vous avez besoin de lire lui en allemand. Je vais faire des références à trois différentes traductions de Stirner, parce que beaucoup des mots sont traduits dans chaque édition avec un autre mot. Je parle d'une ich concrète, une moi concrète, une je concrète. Parce que Stirner a été jeune hegelien, c'est-à-dire, il a étudié chez Hegel, il a lu Fichte. Fichte a travaillé avec une moi absolu. Et Stirner dit, ce n'est pas mon idée, je ne veux pas parler sur un moi absolu, mais sur un moi concrète. Je, seulement le je, n'est pas le moi comme Fichte, mais le je. Pour cette raison, c'est important pour parler sur un je concrète. Après Stirner, l'individu contemporain est possédé par des idées fixes. C'est-à-dire, l'individu est dominé par les grandes idées comme l'idéologie, les religions ou la liberté. L'idée fixe est définie par lui comme une idée à laquelle l'homme est asservi. C'est aussi quelque chose de Goethe. Goethe a utilisé le mot fixe, idée fixe, et Stirner a utilisé le mot aussi. Stirner a été très inspiré par Hegel et par Goethe. Ce sont les plus importantes références, je pense, pour comprendre Stirner. Une idée fixe, c'est un synonyme pour une maladie mentale. C'est aussi une référence à Hegel. Si Hegel parle sur l'esprit, Stirner fait une parodie de ça. Si il dit, c'est une idée fixe, c'est aussi malade, il n'a pas un esprit. Comme ça, il fait le blague avec le mot esprit comme fantôme ou esprit. Pour cette raison, c'est important pour lire aussi la littérature comme Hegel, Goethe, Fichte, pour comprendre ça. Il se lamente au début de son œuvre.
Quelle cause n'ai-je pas à défendre? Avant tout, ma cause est la bonne cause. C'est la cause de Dieu, de la vérité, de la liberté, de l'humanité, de la justice. Puis, celle de mon prince, de mon peuple, de ma patrie. Ce sera ensuite celle de l'esprit, et mille autres encore. Mais que la cause que je défends soit ma cause à moi, jamais. Fi, l'égoïsme qui ne pense qu'à lui.
L'individu est dans la situation de l'aliénation de soi-même. Aliénation. Pour donner un exemple, l'individu n'est fait pas quelque chose comme un je ou un moi, mais comme un communiste, comme un anarchiste, comme un chrétien, mais n'est pas comme un je. L'individu sert une idée extérieure qui cachait son égoïsme. C'est-à-dire, si nous faisons quelque chose comme communiste, comme chrétien, nous faisons ça aussi à cause d'un égoïsme, mais cet égoïsme est caché après une idée fixe. Le sujet aliénation a été très en vogue dans les discussions des jeunes hegeliens. Nous trouvons ça chez le jeune Marx, chez Feuerbach, chez Bauer. Tous les penseurs dans cette époque ont discuté ça. Le mot aliénation, entfremdung en allemand, ce n'est pas trouvable dans le Marx après 48. C'était seulement avant 48. Un autre aspect important est que le mot égoïsme a été utilisé en Allemagne aussi dans le sens de l'individualisme. Le mot individualisme, c'est très jeune. C'était utilisé par les sanctimonistes dans les années 20. C'était la première fois qu'on a utilisé le mot individualisme en France et en Allemagne un peu après. C'est-à-dire, le mot individualisme n'a pas été très fréquent en Allemagne. En allemand, on utilisait le mot égoïsme comme le sens quotidien maintenant, quelqu'un est égoïste, mais aussi dans le sens que quelqu'un est individualiste. Ça c'est important parce que si Stirner parle sur l'égoïste, c'est plus les individualistes comme les égoïstes dans le sens quotidien. La libération de soi-même est un processus du dépassement d'aliénation, mais il sait aussi que l'homme n'est pas seul sur Terre. et fait la différence entre la spontanéité de l'inspiration et la passivité de la suggestion. Il écrit:
si j'oppose la spontanéité de l'inspiration à la passivité de la suggestion et ce qui nous est propre à ce qui nous est donné, on aurait tort de me répondre que, tout tenant à tout, et l'univers entier formant un tout solidaire, rien de ce que nous sommes ou de ce que nous avons n'est par conséquent isolé, mais nous vient des influences ambiantes et nous est en somme donné.
Cette nouvelle authenticité est nommée par lui Eigenheit. Il travaille tout le temps avec le mot Eigenheit. Eigentum, propriété, eigen, c'est propre. Le mot Eigentum, il a été inspiré par Adam Smith. Eigenheit, c'est difficile pour traduire en français. Comme je dis avant, il y a beaucoup de différentes traductions. Dans une traduction, c'est traduit comme individualité, dans une autre comme propriété, dans le vieux sens de ce mot.
Propriété, qualité propre, caractère, surtout caractère de fonction, qui appartient à tous les individus d'une espèce, sans toujours leur appartenir exclusivement.
Ou aussi comme particularité, c'est-à-dire, si nous parlons sur Eigenheit, c'est la propriété, c'est l'individualité et la particularité. En allemand, il y a seulement un mot pour ça. Mais en français, ce n'est pas clair comment traduire ça correctement. Pour cette raison, c'est difficile pour discuter Stirner en français. Stirner définit le mot Eigenheit comme
l'individualité, Eigenheit, c'est-à-dire ma propriété, est au contraire toute mon existence et ma réalité. C'est moi-même. L'individualité renferme en elle-même toute propriété et réalité, ce que le langage chrétien avait déshonoré. Mais l'individualité n'a aucune mesure extérieure, car elle n'est nullement, comme la liberté, la moralité, l'humanité, etc., une idée, somme des propriétés de l'individu, elle n'est que le signalement de son propriétaire.
Il y a un autre mot, propriétaire, eigner en allemand. Aux figures, on peut les traduire comme l'individu authentique. C'est la personne qui s'est libérée, qui s'est retrouvée. C'est un égoïste conscient, contrairement aux possédés, qui sont des égoïstes involontaires. L'idée de altruisme est pour Stirner un mensonge. C'est lié à une idée transcendantale et pour lui seulement un égoïsme caché. À cause de cela, chaque jeu, ou moi, agit comme un égoïste. Stirner n'utilisait pas le mot égoïste dans le sens habituel, mais utilisait le mot comme la signification de l'individu. Égoïste comme ego. C'est très important, il utilisait beaucoup de mots dans le sens original. Le processus de devenir un unique, c'est-à-dire un individu qui est convaincu de soi-même et connecté avec l'innovation, il veut se libérer de tous les chiens.
État, constitution, église, etc., se sont toujours évanouis dès que l'individu a levé la tête, car l'individu est l'ennemi irréconciliable de tout ce qui tend à submerger sa volonté sous une volonté générale, de tout lien, c'est-à-dire de toute chaîne. Les relations, au contraire, impliquent réciprocité. C'est le commerce, commercium, des individus.
Comment penser une société, s'il n'y a pas les values, s'il n'y a pas des idées communes, il n'y a pas une base pour penser la société normalement. Pour faire une coopération avec ça, c'est difficile, je pense. La sortie de cet dilemme est son idée d'une association des égoïstes, qui est utilisée dans le chapitre Mindverkehr, de nouveau un problème de traduction. Mindverkehr s'est traduit comme mes relations ou mes rapports. C'est-à-dire, nous avons aussi le problème, qu'est-ce que c'est concret. Ce n'est pas un paradoxe comme on le pensait dans le premier moment. Cette association est très proche de l'idée association libre de l'anarchiste communiste. Par exemple, Pierre Kropotkin, dans la morale anarchiste, il donnait un exemple pour une association libre. C'est un peu comme l'association des égoïstes. Pour Karl Marx, c'est là comme une copie du Phalanx der Fourieristes. C'est très proche des Fourieristes peut-être. Je ne pense pas, mais Marx a pensé. Stirner a expliqué sa vision de cette association en opposition de la société et de l'État.
Nos sociétés et nos États sont sans que nous les fassions. Ils peuvent s'allier sans qu'il y ait alliance entre nous. Ils sont prédestinés, ils ont une existence propre, indépendante. En face de nous, les égoïstes, ils sont l'état de choses existant et indissoluble.
Il souligne son idée dans l'opposition de la société et de l'association.
Il y a loin d'une société qui ne restreint que ma liberté à une société qui restreint mon individualité. La première est une union, un accord, une association. Mais celle qui menace l'individualité est une puissance pour soi et au-dessus de moi, une puissance qui m'est inaccessible, que je peux bien admirer, honorer, respecter, adorer, mais que je ne puis ni dominer, ni mettre à profit. Parce que devant elle, je n'ai que ma résignation, mon abnégation, ma lâcheté, que l'on nomme humilité. Mon humilité fait sa grandeur, ma soumission, sa souveraineté.
L'association est caractérisée par la description suivante.
L'association n'est maintenue ni par un lien naturel, ni par un lien spirituel. Elle n'est ni une société naturelle, ni une société morale. Ce n'est ni l'unité de sang, ni l'unité de croyance, c'est-à-dire de l'esprit, qui lui donne naissance. Sans une société naturelle, comme une famille, une tribu, une nation, ou même l'humanité, les individus n'ont que la valeur d'exemplaires d'un même genre ou d'une même espèce. Dans une société morale, comme une communauté religieuse ou une église, l'individu ne représente qu'un membre animé de l'esprit commun. Dans l'un comme dans l'autre cas, ce qui est comme unique doit passer à l'arrière-plan et s'effacer. Ce n'est que dans l'association que votre unicité peut s'affirmer. Parce que l'association ne vous possède pas, mais que vous la possédez et que vous vous servez d'elle.
Une association, c'est une association libre qui s'est caractérisée par les processus permanents de se réunir. C'est très important pour Stone. Il n'est pas pensé une association fixe. Ce n'est pas possible pour lui pour penser une association avec une constitution, avec un président, quelque chose comme ça. Ça, ce serait le mot d'une association pour lui. Pour lui, l'association, c'est tout le temps le processus de se réunir, de faire un compromis, de parler ensemble tout le temps. Tout le temps, si quelque chose est fixe, c'est comme un état, comme un parti, comme une église. Il y a besoin tout le temps d'un processus fluide. L'association est aussi marquée par l'idée d'une interaction directe. Il n'y a pas quelqu'un qui règle le contact de l'individu. Il y a tout le temps le contact direct. Ça, c'est aussi très important pour comprendre ça, parce que avec ça, il est contre le communisme, contre le parti. Il dit tout le temps, nous avons besoin d'un contact direct entre l'individu et l'autre individu. Il est avec ça plus radical que les anarchistes. L'idée stenrienne de l'association a été lue comme une coopérative, une phalanstère, comme une association de recours à ses propres moyens, et comme une anticipation de la forme d'association anarchiste en général. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'interprétations de cette association, coopération, phalanstère, ou seulement fédération anarchiste. Stirner a concrétisé l'idée dans sa réponse au socialiste allemand juif Hess, un ami de Marx, avec la description suivante.
Il en serait autrement, certes, si Hess voulait voir des associations égoïstes, non pas sur le papier, mais dans la vie. Faust se trouve au sein de telles associations lorsqu'il s'exclame « Ici je suis homme, ici je puis l'être ». Goethe l'indique ici même noir sur blanc.
Ça, c'est l'idée stonerienne. De nouveau, Goethe, de Faust, hier bin ich, hier kann ich Mensch sein, hier kann ich sein. Le faux sens de Hess est trouvable fréquent aussi chez autres lecteurs. Hess a critiqué, ce n'est pas possible pour penser une association comme ça. Ça, c'est seulement une idée fixe de Stirner, il pensait. Pourquoi l'idée d'une association? Pourquoi à cet homme? Pourquoi une association? Pourquoi il n'y a pas une phalanstère? Pourquoi? L'association a été à l'époque du Vormärz. Vous connaissez le mot Vormärz? C'est l'époque en Allemagne entre 1815 et la Révolution française 48. Cette époque a été nommée Vormärz. C'était l'époque révolutionnaire dans la littérature avec Heinrich Heine et autres penseurs. Donc cette époque, la forme révolutionnaire d'organisation a été l'association. Pour faire quelque chose, on fondait une association. C'était un peu comme le salon. En France, on rencontre, parler, discuter, boire beaucoup. Et une association comme ça, c'était l'idée des Stirner. Peut-être vous connaissez cette image. Oui, ici, nous avons l'association des Kreis der Freien, le cercle des jeunes hegeliens. Bruno Bauer, c'était le superviseur de la thèse doctorale de Marx. Stirner, Edgar Bauer, c'était une association des penseurs. C'était après le Doctor Club, vous connaissez le mot Doctor Club. C'était une association 42 avec Bruno Bauer, Feuerbach, Marx et autres penseurs. Et après, il y a été le cercle des Freien. Les rencontres dans une bar, on discutait sur la politique, la religion, la philosophie. Et donc cette cercle Stirner a été aussi membre. Peut-être c'était l'idée, l'inspiration pour penser une association comme un modèle pour la société en général. Pour faire quelque chose ensemble et après c'est fini. Trouver une autre association pour faire un nouveau, pour faire quelque chose. Ça c'est très intéressant je pense. Et peut-être aussi une chose qui est très importante pour discuter dans le mouvement anarchiste, comment organiser une association libre qui donnait la possibilité pour être individuel. Pour résumer, Stirner pense la libération de l'individu comme un processus de libération. Ce processus est automatiquement un processus de l'individuation et dans ce sens, il est asocial. Nous n'avons pas l'idée qu'il y a un groupe. Une révolution, avec la révolution, nous nous émancipons. Non, c'est la libération, lui-même, tout le temps, permanent, une révolte permanente. L'unique, c'est-à-dire l'individu authentique, doit créer la société à la base de son individualité. L'idéal de lui-même n'est pas un état naturel, ainsi que le dit écrivain Thomas Hobbes, comme une guerre civile, homo homini lupus est, parce que il est d'accord avec les anarchistes. Ce n'est pas pour moi un être supérieur et je n'en suis pas un pour toi. Son idéal est une société des individus authentiques où les individus sont dans un contact direct les uns avec les autres. C'est un peu les mêmes idées qui est discutée par Marquis de Sade. 1793 écrit dans la philosophie dans le Boudoir une conception pour la société future. Il a la même idée. La révolte permanente. Et ça, c'est un peu l'idée aussi des Stirner. Tout le temps, si nous avons une situation fixe, automatiquement, nous avons la domination. Et pour cette raison, c'est peut-être intéressant pour penser aussi l'association des Stirner comme une alternative. Je voudrais citer maintenant Albert Camus, son essai L'homme révolté pour faire la transition avec Nietzsche. Je pense qu'il a très bien compris la relation entre les deux penseurs, comme il a écrit.
Stirner, déjà, avait voulu abattre en l'homme, après Dieu lui-même, toute idée de Dieu. Mais au contraire de Nietzsche, son nihilisme est satisfait. Stirner rit dans l'impasse. Nietzsche se rue contre les murs.
Je pense que ça c'est très important. Pour cette raison, j'ai fait une comparaison des trois penseurs. Je pense que Sade est le premier qui a l'idée d'une individu concret, authentique. Mais c'est Stirner qui trouvait le point concret et qui a une idée comment organiser ça très radical. Et avec Nietzsche, nous avons un penseur qui cherche de nouveau comment on sortit de ça. Nietzsche est un chrétien dans son cœur, tout le temps. Il cherche le surhomme, chose comme ça. Stirner était nihiliste. Il connaît comment vivre dans une situation comme ça. Sade, autre côté, il a besoin tout le temps de bataille, de querelle avec Dieu, avec les autres. Stirner, oui, je suis individu, je n'accepte pas quelque chose, il est calme. Et Nietzsche, il cherche, il a besoin de quelque chose de nouveau. Il y a eu longtemps aussi la discussion entre les chercheurs pour décider si Nietzsche a lu ou connu Stirner ou non. Maintenant, il est clair que Nietzsche a lu Stirner. On trouve beaucoup de références à Stirner dans l'œuvre de Nietzsche et son ami Franz Overbeck, l'a confirmé aussi. Je ne voudrais pas souligner tous les convaincus entre eux deux, mais je voudrais montrer peut-être quelques aspects qui soutiennent les idées de Stirner ou qui sont différents de lui. Contrairement à Stirner, Nietzsche pense l'individu concret comme un but de l'humanité. Ça, c'est peut-être très important pour penser un nouveau individualisme. Chez Stirner, nous avons l'idée « je me libérer ». Chez Nietzsche, nous avons besoin de faire construire les surhommes. Nous avons besoin de faire quelque chose. Pour Stirner, c'est seulement une chose individuelle. Si vous faites ça, ça, ce n'est pas ma chose. Un autre aspect différent entre Stirner et Nietzsche est l'idée de l'innovation. Nietzsche se voit confronté avec la rupture des grandes idées. L'individu est déjà confronté avec la crise qui s'est présentée dans l'image de la mort de Dieu. Ça, ce n'est pas une nouvelle idée. C'est une idée dans la littérature allemande qui est trouvable chez Hegel, chez Heine et autres penseurs. Pour cette raison, si nous parlons sur Nietzsche, Nietzsche est normalement seulement quelqu'un qui a lu les auteurs avant lui, mais n'a pas ajouté quelque chose de nouveau. Nietzsche parle de la situation de la crise. À cause de cela, l'idéal de Nietzsche se trouve dans sa conception de l'individu fort. Un individu fort, c'est-à-dire les Grecs, l'artiste, le génie, le grand individu. Il y a beaucoup de masques dans l'œuvre de Nietzsche avant le surhomme. Le surhomme, c'est seulement une masque comme le génie ou le grand individu. Il déclare la création du surhomme dont on s'y parle Zarathustra comme but de l'humanité. Saint Zarathustra dit « Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. » La figure de l'individu s'est caractérisée par l'autonomie et sa force. Il s'est créé lui-même ses valeurs, c'est-à-dire qu'il refuse, comme le propriétaire stirnérien, les valeurs universelles. Il parle de la umwertung der Werte, changement des valeurs. À cause de cela, je ne vais pas exposer son idée de l'individu concret ici. C'est peut-être important, aussi chez Nietzsche, nous avons le problème, nous n'avons pas une base universelle pour fonder quelque chose. Si nous n'avons pas une moralité commune, comment nous fondons une société? Qu'est-ce que c'est la base pour nous? Cet individu est aussi un individu concret, dans le sens où l'individu qui suit la parole de l'oracle de Delphes obtient la connaissance de soi-même, c'est-à-dire la connaissance de soi-même et l'être authentique. Il écrit dans la deuxième considération inactuelle
« Le dieu delphique vous jette, dès le début de votre voyage vers ce but, sa sentence, connais-toi toi-même. »
La relation entre l'individu et la société est en conflit. Nietzsche écrit dans l'humain trop humain sur la relation.
Bref, comment introduire l'individu à sa place dans le contrepoint de la culture personnelle et de la vie publique? Comment pourra-t-il être à la fois la mélodie dominante et son accompagnement?
Nietzsche est avec cette connaissance dans la même situation que Stirner. Il doit penser une nouvelle société à partir des individus forts, qui sont autonomes et authentiques. Il sait qu'il n'a pas la possibilité de penser cet individu dans l'État. Il écrit dans On sait parler Zarathustra, où cesse l'État? Là, jetez dans votre regard, mes frères. Ne les voyez-vous donc? Et l'arc en ciel et le pont du surhomme. Nietzsche problématisait différents termes de la relation entre l'individu et la société dans l'image de l'individu fort à côté de la masse de la société. Il écrit donc pas de là le bien et le mal. Une minorité seule est capable d'indépendance. C'est un privilège des forts. On trouve beaucoup de passages qui reprennent cette image. Il est problématisé dans le Gai Savoir de nouveau le problème de l'humanisme.
Plus un individu ou la pensée d'un individu peut exercer un effet universel et inconditionné, plus la masse sur laquelle s'exerce cet effet doit être homogène et basse. Tandis que les tentatives opposées trahissent des besoins intérieurs opposés qui veulent également se satisfaire et s'imposer.
À l'autre côté, l'individualité est le produit de l'éducation, après Nietzsche. Ça, c'est aussi une idée très intéressante. Nietzsche pense que l'individualité, c'est un produit d'éducation. Mais l'éducateur, ce n'est pas un professeur français. L'éducateur, c'est quelqu'un qui aide l'individu pour reconnaître soi-même. C'est plus comme un professeur dans une école autogérer, quelqu'un qui donnait l'aide pour être individu, n'est pas un prof dans ce sens. Mais avec ça, nous avons le problème. Comment penser un individualisme si nous avons besoin des professeurs, des enseignants qui donnaient la possibilité pour devenir un individu? Nietzsche n'a pas une réponse pour ça. L'idée de l'éducateur, c'est seulement chez les jeunes, Nietzsche. Après, il n'a pas une idée de ça. Nietzsche a discuté l'idée de l'humanisme, entre autres, dans son premier livre, La naissance de la tragédie à partir de la confrontation des principes d'Apollon et Dionysos. Les deux dieux sont associés avec l'innovation et la réunification. Apollon, le dieu de l'innovation, et Dionysos, sans limite, il n'a pas l'individu dans l'idée de Dionysos. Ça c'est très intéressant, mais c'est plus un idéal artistique qu'un idéal sociétaire. Qu'est-ce que c'est son idéal de la société, sa vision positive? Nous ne trouvons pas un chapitre comme dans l'unique de Stirner où Nietzsche s'est expliqué. Ce n'est pas son style de présenter une conception pour organiser la société. On trouve chez le jeune Nietzsche une image positive de l'État. L'État comme le cadre qui offre la possibilité pour l'individu d'être éduqué. Mais c'est seulement chez les jeunes Nietzsche. Après, il n'a pas une idée comment organiser une association, comment organiser une société. Il a les mêmes idées comme Stirner, mais il n'a pas une conception pour ça. Les penseurs qui travaillaient avec Nietzsche, ils travaillaient normalement aussi avec Stirner. Mais nous n'avons pas une idée comment organiser une institution, comment associer pour être individuel. Il est seulement conforme avec Stirner que la société, c'est une prison. Parce que dans l'État, dans la société, l'individu n'a pas la possibilité pour vivre l'individualité. Mais il n'a pas l'idée concrète comment organiser la société avec Nietzsche. Pour cette raison, je pense que Stirner est plus important. Et je pense aussi que Stirner est plus démocratique dans le sens de l'individualité. Nietzsche pense que l'individu doit être fort. On a besoin de la puissance pour être individu. Chez Stirner, c'est une conception pour chaque personne. Pour cette raison, Stirner est plus démocratique. Chez Stirner, nous trouvons aussi une idée pour une association. Ce n'est pas clair quel type d'association c'est ça. C'est peut-être une corporation, c'est peut-être un syndicat, c'est peut-être une fédération anarchiste. Mais en général, je pense que Stirner pense une association anarchiste, un peu comme Kropotkin, mais à la base de l'individu. Les communistes, les socialistes, on pensait tout le temps la société à la base de la société. L'individu doit se libérer dans la société. Pour Stirner et Nietzsche, le processus est dans l'autre direction. On pensait que l'individu s'est libéré et l'individu libre, l'individu authentique, doit construire une association pour faire une nouvelle société qui est libre, qui donne la place pour vivre son individualité. Et je pense que c'est très important comme un correctif pour les groupes communistes, pour les groupes socialistes, corporatistes, je ne sais pas, fouilleristes, pour tous les groupes, parce que je pense tout le temps dans les structures, nous avons le problème comment libérer l'individu. Et chez Stirner, la réponse, et chez Nietzsche, la réponse est l'individu doit être authentique, doit se libérer. Et cet individu authentique doit fonder une association, une nouvelle société. Ça, c'est la base. En Allemagne, on discutait Stirner chez les anarcho-syndicalistes, donc la FAUD, Freie Arbeiterinnen-Union, c'est un peu comme la CNT ici. Aussi, les penseurs allemands socialistes, Gustav Landauer, et tous les penseurs qui ont pensé le socialisme anarchiste, ils ont été inspirés par Stirner et par cette idée. Actuellement, avec Foucault et tous les penseurs comme ça, nous avons détruit l'individu, mais je pense la base pour fonder une association, une société, est tout le temps l'individu. L'individu authentique. Si nous n'avons pas l'individu authentique, chaque société, c'est une société de fous. Merci.
Je crois que vous avez introduit en France Stirner, qui est particulièrement méconnu. J'espère que vous aurez donné l'envie à bon nombre d'entre nous d'en savoir plus. Je ne peux que constater à quel point, en fait, les problèmes de langue sont très largement impliqués dans cette méconnaissance. On le remarque aussi bien dans l'évocation, les ambiguïtés de termes que vous avez signalées. On le remarque aussi dans ma difficulté à trouver un orateur sur ce sujet-là. Heureusement que vous étiez là. Et je vous remercie aussi d'avoir fait l'effort de vous exprimer en français pour commencer un peu un débat. Vous avez évoqué le fait que Stirner fréquentait une association. On avait vu une petite caricature. Je voulais savoir s'il en avait fondé, s'il en fréquentait plusieurs, si c'était quelqu'un qui était capable d'instituer des choses, puisqu'on navigue toujours entre ces deux pôles. Là, bon, l'idée de Stirner qui était une association qui n'est jamais fixe, qui est toujours mouvante, une espèce de flux en fait, puis quelque chose qui est quand même une certaine permanence dans le temps qui puisse créer une identité, quoi.
Groupe dans cette cercle pendant 42 et 45 seulement. Donc cette cercle était Bruno Bauer. Bruno Bauer, c'est une personne un peu compliquée. Parce que on discutait à partir de 2006 l'importance de Bruno Bauer dans le discours antisémite en Allemagne. Il était fondateur de cette cercle. Il était Edgar Bauer, un journaliste. C'était chaque soir dans une bar allemand. On voit et discutait. Stirner a été dans cette cercle et discutait. Il n'a pas été quelque chose de concret. On discutait et publiait. Il n'a pas été quelque chose de concret pour faire. Ça, c'est un peu dommage. Donc cette époque, c'était normal pour faire une association comme ça.
Dans cette association, il n'y avait pas de femmes.
Oui, il y avait un groupe de femmes. Donc cette association, c'était aussi très drôle parce que c'était un grand scandale parce que les femmes ont allé dans les vêtements masculins, dans les bordels avec les mecs et choses comme ça. Et c'était un grand scandale à Berlin dans ce groupe parce que le groupe était très libre, les femmes fumaient, c'était un scandale. Marie Denhardt, très connue, c'était la femme de Stirner. Elle était avant liée avec Bruno Bauer. C'était une structure masculine normalement. Mais dans ce groupe, nous avons beaucoup de femmes. Il y avait le contact avec Bettina von Arnim et autres femmes connues dans cette époque, mais dans cette groupe. Pas des femmes très connues. De cette cercle, il y a seulement Bruno Bauer qui est très connu jusqu'à maintenant. Stirner, Engels. Avant, il y avait aussi Marx. N'est pas quand Stirner était dans cette cercle. Marx a habité dans cet homme à Bonn, je pense. Le problème a été avec la révolution 48. Il y a été une nouvelle situation, il y a été des nouvelles structures, des partis communistes, des groupes communistes. Et ça a changé beaucoup.
Est-ce que c'est pas un peu le signe, justement, que dès qu'il faut passer à quelque chose de concret, ben finalement, c'est pas possible? Parce que est-ce que tu as des exemples de groupes anarchistes d'autres pays qui ont vraiment agi? Je pense à l'Espagne, par exemple. Est-ce qu'ils se sont référés à des penseurs comme Stirner?
Le problème de Stirner est que Stirner n'est pas seulement anarchiste. La première personne qui dit Stirner est anarchiste a été Engels. Après, c'était Plechanov qui a dit Stirner est anarchiste. Et la troisième personne qui a dit Stirner est anarchiste a été un anarchiste. Et les deux premières personnes ont été les communistes qui ont dit Stirner est anarchiste. Les anarchistes ont un problème avec Stirner. On dit oui, Stirner est quelqu'un libertaire, mais il est anarchiste ou non, ce n'est pas clair. Par exemple, Max Nettler a dit oui, bien sûr, Stirner a été anarchiste. Pour Kropotkin, Stirner a été un peu difficile et pour autres fonctionnaires aussi. Pour cette raison, c'est un peu compliqué pour discuter Stirner dans un contexte anarchiste. Bakunin a lu Stirner, c'est clair. Il a été inspiré par Stirner dans les années 40. Parce que dans ce temps, Bakunin a été jeune hygiénien comme Stirner. Il a changé son opinion en 64. En 64, Bakunin a été nominé la première fois anarchiste. Mais il n'a pas dit quelque chose après ce Stirner. En Espagne, c'était un peu compliqué. Il y a été un groupe, des anarchistes minimalistes, qui a été inspiré par Stirner. En France, c'était par exemple Émile Hamon et le groupe des libertaires, un peu les groupes illégalistes, Bono, des groupes comme ça, qui sont un peu inspirés par les idées stirneriennes. Le problème de Stirner est peut-être il est aussi très difficile pour lire, aussi pour les Allemands, c'est très difficile pour lire Stirner. Stirner, ce n'est pas la lecture pour un travailleur, parce que Stirner est intellectuel, oui, bien sûr, il a étudié chez Hegel, il a lu Fichte, il travaille avec ça. Et pour cette raison, c'était aussi très difficile pour les travailleurs, pour lire Stirner. Et nous n'avons pas une édition comme le Capital pour les travailleurs qui a été fait par Cafiero ou Johann Most, qui ont fait une version populaire de ça. Stirner n'était plus un penseur qui était une influence pour les personnes intellectuelles, pour les auteurs, pour les philosophes, Landauer. Mais il a été une influence très importante pour les penseurs du mouvement travailleur, je pense. Et il n'a pas un lien directement, mais dans les idées, on trouvait beaucoup Stirner, je pense. Mais il n'a pas un groupe qui dit, oui, nous sommes Stirneriens, seulement notre association. Il a été un congrès individualiste à Berlin. Après la Première Guerre mondiale, il y a été une grande conférence. Il y a beaucoup de penseurs qui ont été inspirés par Stirner. Une action contre les anarchistes en Allemagne, 37. C'était contre 300 membres de la FAUD. On a trouvé chez chaque travailleur une édition de Stirner. Chez les anarchistes, chaque travailleur a eux un livre de Stirner, mais il n'a pas un mouvement qui a été inspiré par lui. La première traduction française a été une traduction 48 et a été au début du 20e siècle et ont été deux traductions. Et c'était très important parce que André Gide a écrit une critique de ça. Mmh. On trouve chez Bataille, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, chez tous les penseurs français, on trouve la lecture de Stirner. Ça, c'est très intéressant. Mmh. Mais nous avons tout le temps une lecture cachée. C'est jusqu'à maintenant. Discuter sur Stirner, c'est un problème pour les personnes. Nietzsche, nous avons aussi la situation chez Nietzsche. Nietzsche dit rien sur Stirner. Mais il a demandé son élève préféré le livre de Stirner dans la bibliothèque universitaire. Mais il n'a pas dit quelque chose sur Stirner. Nous avons le même problème avec d'autres penseurs allemands. Heidegger, il a lu Stirner. Mais il n'a pas dit quelque chose sur Stirner. Stirner était une référence pour toutes les personnes intellectuelles dans le 20e siècle. Wilhelm Reich, il a fait une référence à Stirner. Bataille, Breton, les Sudianistes, oui, Guy Debord, tout ont lu Stirner. Rudolf Steiner, en Allemagne, il a dit, oui, Stirner a donné des idées pour l'éducation adaptive, c'est le plus important œuvre sur l'éducation. Et c'est très difficile pour comprendre Stirner parce qu'il y a beaucoup de références à Hegel, à Fichte, au discours contemporain. Comprendre la situation, le contexte, c'est jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible pour des personnes universitaires pour travailler sur Stirner. Et tous les penseurs ont eux un problème de dire oui, nous avons lu Stirner.
Est-ce que ce n'est pas la notion d'égoïsme qui dérange?
Oui, par exemple, l'égoïsme c'est un grand problème. Oui. Mais il y a une œuvre de Wolfgang Esper. Esper a dit Stirner a inspiré Marx pour le matérialisme historique. Et ça a été la lecture de Stirner qui donne Marx des idées. Et Engels a écrit, après la première lecture de Stirner, c'est le plus intelligent penseur de notre époque. Après, Marx dit non, c'est le contraire. Mais Engels, il a été inspiré par Stirner. Au début, on discutait Stirner. C'était important pour discuter sur Stirner. Maintenant, c'est vrai, on publiait chaque année un nouvel livre sur Stirner. Mais ce n'est pas une grande chose maintenant.
Est-ce que le destin de Stirner, comme vous l'expliquez, ça ne vous fait pas penser un petit peu à une autre comète qui avait traversé le ciel des idées, mais longtemps avant? C'est Étienne de la Boétie.
Oui, bien sûr.
Autour de la servitude volontaire. Parce que dans les deux cas, on a une description de l'aliénation qui est très idéaliste et existentielle en même temps, mais qui, je suis désolé de le dire comme ça, qui fait quand même l'économie des formes concrètes qu'a l'aliénation dans notre monde. Et du coup, on n'a pas le mode d'emploi. On peut lire le livre et y trouver beaucoup de charme et d'intérêt, mais après, qu'est-ce qu'on en fait?
Oui, mais je pense que Stirner a fait ça directement pour ça, parce qu'il dit, c'est à vous. Vous êtes individuel. Vous avez besoin de faire quelque chose vous-même. Vous avez une autre base que moi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que vous faites? C'est votre chose. Et avec la poésie, bien sûr. La poésie, avec sa révolte et les idées sur la domination, les idées sont très proches de Stirner. Je n'ai pas trouvé une référence de Stirner à la poésie, mais je pense que nous avons beaucoup d'idées similaires.
Je trouve très très estimable quand quelqu'un ne veut pas apparaître comme un maître à penser. Hein. Je voulais juste dire que la description de l'aliénation, le fait de ne pas être soi authentique, elle ne prend pas les formes de ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, dans l'économie, dans le travail, dans etc., etc. Et c'est ça peut-être qui fait qu'une théorie comme celle de Marx a eu beaucoup plus de succès, parce qu'elle s'est intéressée à ça, sans parler, comme vous l'avez dit, à partir de Perrenpied, sans parler d'aliénation.
Pour discuter, je dirais concrètement, normalement, nous avons besoin de parler aussi sur ces œuvres avant, les faux principes de notre éducation. L'éducation, c'est le premier texte qui anticipait l'antipédagogie. Comment éduquer quelqu'un? Un enfant, qu'est-ce que c'est la base pour l'éducation? Stirner, c'était dans l'époque dans laquelle Steiner était prof de la philosophie pour la sœur de Nietzsche. C'était avant l'anthroposophie. Et nous avons trouvé dans l'antipédagogie allemande, Schönbeck, Braunmühl, ce sont des penseurs antipédagogistes allemands qui étaient très forts, plus forts comme en France, qui étaient inspirés par Stirner directement dans l'école et les idées sur l'éducation. Stirner, ce n'est pas un programme pour faire notre société, mais Stirner, c'est une réflexion.
Ben, c'est aussi un garde-fou, hein. Je vais dans votre sens, c'est aussi un garde-fou, puisqu'on a vu ce que d'autres courants ont donné quand ils se sont concrétisés dans certains régimes.
Est-ce qu'il se référait à Rousseau?
Oui, il y a deux références à Rousseau dans son œuvre principale, mais il n'y a pas beaucoup de références. Il a écrit une œuvre, c'est en 1952, Die Geschichte der Reaktion, ce n'est pas traduit en français, c'est sur l'histoire de la Révolution française, la réaction contre ça et tout. Et dans cette œuvre, on trouve 4 ou 5 passages avec une référence à Rousseau, mais normalement, il n'y a pas beaucoup de références à Rousseau. Parce que Rousseau n'a pas été une grande référence dans cette cirque. On discutait autre chose. On discutait Hegel, Fichte, Schelling, Schleiermacher, c'était plus centré à les penseurs comme ça. Les classiques grecs, les classiques latins et Goethe, on a fait beaucoup de références à la Bible. Rousseau n'est pas été une grande chose pour les penseurs dans cette époque. Mais je pense, Stirner a critiqué un peu indirect Rousseau dans quelques passages. Mais il n'a pas une référence directement.
Si je veux dire, moi, je fais ich, ich.
Nous avons seulement une fois ich.
Mais tu peux le dire, tu fais ich, virgule ich.
Oui, c'est possible.
C'est possible.
C'est pas interdit, mais j'ai jamais entendu ça.
Voilà, voilà. Non, mais qu'est-ce que ça se dit? C'était ma... Quand tu veux insister...
L'accent tonique...
Moi, je suis furieuse.
Voilà.
C'est
oui, c'est
français.
Oui. Oui, mais c'est possible pour dire ich, ich denke, mais c'est avec une pause. Et,
d'accord.
Mais normalement, ce n'est pas
et très... Et pas écrit, en tout cas.
Normalement, non. Je fais ça un peu, ich denke, mais ça c'est un peu littéralement, c'est un peu artificiel.